Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus.
Leçon 8, du 17 au 23 février. La sagesse pour vivre dans l'intégrité. Sabbat après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Psaume 119, des versets 1 à 16, Psaume 90, Jean 3, verset 16, Psaume 95, des versets 7 à 11, Psaume 141 et Psaume 128. Versets à mémoriser.
Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse.
Psaume 90, verset 12. Comme nous avons pu l'entendre, la grâce de Dieu pourvoit au pardon des péchés et elle crée un nouveau cœur chez le pécheur repentant qui vit à présent par la foi. La parole de Dieu donne également des instructions pour vivre dans l'intégrité. Psaume 119, des versets 9 à 16. Observer la loi de Dieu n'est en rien une observation légaliste de règles, mais vivre une vie riche de bénédictions dans une relation intime avec Dieu. Psaume 119, versets 1 et 2 et Psaume 128. Cependant, la vie du juste n'est pas exempte de tentations. Parfois, le juste peut être tenté par la nature rusée du péché. Psaume 141, des versets 2 à 4, et aller jusqu'à tomber dans ce piège. Dieu permet des moments d'épreuve pour que la fidélité ou l'infidélité de ses enfants soit clairement révélée. Si les enfants de Dieu tiennent compte de l'instruction et de la réprimande de Dieu, leur foi sera purifiée et leur confiance dans le Seigneur fortifiée. Quand on traverse avec Dieu des tentations et des difficultés, on gagne de la sagesse pour mener une vie intègre. Ainsi, cette prière que Dieu voudrait nous enseigner à compter nos jours afin que nous conduisions nos cœurs avec sagesse, Psaume 90, verset 12, reflète un engagement constant de marcher en restant fidèle au Seigneur. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 24 février. Dimanche, j'ai caché ta parole dans mon cœur. Si quelqu'un peut vous faire la lecture du psaume 119, des versets 1 à 16, 161 à 168. Comment garder les commandements de Dieu et quelles sont les bénédictions qui y sont cachées? La Bible décrit une vie quotidienne de foi comme un pèlerinage, une marche avec Dieu dans sa voie de justice. La vie de foi est possible quand on marche dans la loi du Seigneur, psaume 119, verset 1, et à la lumière de ta face, psaume 89, verset 16. Il ne s'agit en aucun cas de deux marches différentes. Marcher à la lumière de la face de Dieu implique de respecter sa loi. De la même manière, marcher dans la loi du Seigneur implique de chercher Dieu de tout son cœur. Psaume 119, versets 1, 2 et 10. Les psaumes décrivent la vie intègre d'une autre manière, être irréprochable dans ses voies. Psaume 119, verset 1, version Bible en français courant. Intègre décrit un sacrifice sans défaut, acceptable pour Dieu. Exode 12, verset 5. De même, la vie d'un individu qui est un sacrifice vivant, Romains 12, verset 1, ne doit pas être souillée par l'amour du péché. Une vie consacrée à Dieu est également une voie parfaite, version Darby. Ce qui signifie qu'une personne prend une bonne direction dans sa vie, celle qui fait plaisir à Dieu. Psaume 101, verset 2 et 6. Également, psaume 18, verset 33. Garder les commandements de Dieu n'a rien à voir avec une observation légaliste des règles divines. Au contraire, il s'agit d'une bonne intelligence de la différence entre le bien et le mal. Psaume 111, verset 10, version Darby. Également, 1 Chronique 22, verset 12. Et cela implique la personne dans sa globalité et non de simples actions extérieures. Être irréprochable, garder les commandements de Dieu et chercher Dieu de tout son cœur, voilà des attitudes indissociables dans la vie. Psaume 119, versets 1 et 2. Les commandements de Dieu sont une révélation de la volonté de Dieu pour le monde. Ils enseignent aux gens à devenir sages et à vivre dans la liberté et la paix. Psaume 119, des versets 7 à 11 et 133. Le psalmiste fait ses délices de la loi car elle l'assure de la fidélité de Dieu. Psaume 119, versets 77-174. Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi et aucun obstacle ne les fait trébucher. Psaume 119, verset 165. Cette image de la chute décrit un manquement moral, comme la lampe au pied du psalmiste. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu nous protège des tentations. Psaume 119, verset 110. Comment Christ a-t-il démontré la puissance de la parole de Dieu dans sa vie? Matthieu 4, des versets 1 à 11. Qu'est-ce que cela nous indique sur la puissance qui vient d'un cœur décidé à obéir à la loi de Dieu? Lundi, enseigne-nous à bien compter nos jours. Quelqu'un peut-il lire pour vous le psaume 90, le psaume 102, verset 11, et psaume 103, des versets 14 à 16? Quelle est la situation délicate des humains? L'existence humaine déchue n'est qu'une vapeur au vu de l'éternité. 1000 ans pour Dieu sont comme une veille de la nuit, qui durait 3 ou 4 heures. Psaume 90, verset 4. Comparé au temps divin, une vie humaine est très fugace. Psaume 90, verset 10. Les plus robustes parmi les humains sont comme les plus faibles plantes. Psaume 90, versets 5 et 6. Psaume 103, versets 15 et 16. Cependant, même cette courte vie est pleine de fatigue et souffrance. Psaume 90, verset 10. Même les personnes sécularisées qui ne croient pas en Dieu se lamentent sur la brièveté de la vie, en particulier face à l'éternité de l'au-delà qui, ils le savent, menace de continuer sans eux. Le psaume 90 situe la condition humaine dans le cadre de la sollicitude de Dieu pour nous, lui qui est notre Créateur. Le Seigneur est la demeure de son peuple dans toutes les générations. Psaume 90, versets 1 et 2. Le mot hébreu « Mahon »« demeure » décrit le Seigneur comme le refuge, l'abri de son peuple. Psaume 91, verset 9. Dieu contient sa juste colère et manifeste de nouveau sa grâce. Le psalmiste s'écrie « Qui connaît la force de ta colère ?» Psaume 90, verset 11. Il sous-entend que personne n'a fait l'expérience de la pleine colère de Dieu contre le péché, alors qu'il y a de l'espoir. On peut se repentir et gagner en sagesse pour vivre dans la justice. La sagesse dans la Bible ne décrit pas simplement l'intelligence, mais la révérence pour Dieu. La sagesse dont nous avons besoin, c'est de savoir bien compter nos jours. Psaume 90, verset 12. Si nous pouvons compter nos jours, cela veut dire que nos jours sont limités et que nous le savons. Vivre avec sagesse signifie vivre en sachant que la vie est éphémère, ce qui nous conduit à la foi et à l'obéissance. Cette sagesse ne s'obtient que par la repentance. Psaume 90, versets 8 et 12. Et grâce au don de Dieu, le pardon, la compassion et la miséricorde. Psaume 90, versets 13 et 14. Notre problème fondamental ne vient pas du fait que nous avons été créés en tant qu'humains. Il vient du péché et de ce que le péché a causé dans notre monde. Ces effets désastreux sont visibles partout et en tous. Grâce à Jésus, pourtant, nous avons une issue de secours pour échapper à notre terrible condition. Jean 1, verset 29, Jean 3, des versets 14 à 21. Sinon, nous n'aurions aucun espoir. Malgré la brièveté de la vie, quelle promesse avons-nous en Jésus? Jean 3, verset 16. Quel espoir aurions-nous sans lui? Mardi, la mise à l'épreuve du Seigneur. Quelqu'un peut lire pour vous le psaume 81, les versets 8 et 9, le psaume 95, des versets 7 à 11, et psaume 105, des versets 17 à 22. Qu'implique la mise à l'épreuve divine dans ces textes? C'est à Mériba qu'Israël avait mis Dieu à l'épreuve, en remettant en question sa fidélité et sa capacité à subvenir à leurs besoins. Exode 17, des versets 1 à 7, et Psaume 95, les versets 8 et 9. Le Psaume 80 fait une étonnante inversion et interprète le même événement comme l'occasion où c'est Dieu qui avait mis Israël à l'épreuve. Psaume 81, verset 8. Il ajoute que par sa désobéissance et son manque de confiance, Psaume 81, verset 12, le peuple a échoué à cette épreuve. La référence à Mériba traduit un double message. D'abord, le peuple de Dieu ne doit pas refaire les erreurs des générations passées. Il doit plutôt avoir confiance en Dieu et marcher dans ses voies. Psaume 81, verset 14. Deuxièmement, bien que le peuple ait échoué, Dieu est venu à son secours dans les difficultés. Psaume 81, verset 8. La grâce salvatrice de Dieu par le passé donne l'assurance de la grâce de Dieu aux nouvelles générations. Le psaume 105 montre que les épreuves ont servi à éprouver la confiance qu'avait Joseph en la parole de Dieu. Genèse 37, versets 5 à 10, psaume 105, verset 19. En hébreu, tsarap, éprouva, au verset 19, version Darby, traduit l'idée de débarrasser, épurer ou purifier. Ainsi, l'objectif de Dieu en mettant la foi de Joseph à l'épreuve était de supprimer les doutes qu'il pouvait avoir concernant les promesses de Dieu et de fortifier sa confiance en la direction de Dieu. L'objectif de la discipline divine, c'est de fortifier les enfants de Dieu et de les préparer à l'accomplissement de la promesse, comme le montre l'exemple de Joseph. Psaume 105, des versets 20 à 22. Mais le rejet des enseignements de Dieu donne lieu à un entêtement sans cesse plus grand et à l'endurcissement du cœur de celui qui s'obstine.
Le Seigneur exige une obéissance implicite à sa loi, mais les hommes sont endormis ou paralysés par les séductions de Satan. Celui-ci leur suggère toutes sortes d'excuses et de subterfuges. Il a raison de leurs scrupules, comme lorsqu'il disait à Ève en Éden, « Vous ne mourrez point ». La désobéissance endurcit non seulement le cœur et la conscience du coupable, mais elle tend à corrompre la foi de l'autre. Ce qui paraissait tout d'abord à ceux-ci une grave erreur perd graduellement cet aspect jusqu'à ce que, finalement, il se laisse gagner par cette erreur.
Ellen White, Témoignage pour l'Église, volume 1, page 559. Que connaissez-vous de la manière dont le péché endurcit le cœur ? Pourquoi cette idée devrait-elle nous conduire à la croix, qui est le seul endroit où trouver la puissance nécessaire pour obéir ? Mercredi, malhonnêteté de la voix des méchants. Qu'on vous lise le psaume 141. Pourquoi le psalmiste prie-t-il ? Le psaume 141 est une prière pour être protégé des tentations intérieures et extérieures. Le psalmiste est non seulement mis en danger par les traquenards des méchants, psaume 141, les versets 9 et 10, mais il est également tenté d'agir comme eux. Le premier point faible, la maîtrise de soi en matière de parole. Le psalmiste prie pour que Dieu veille sur la porte de ses lèvres, psaume 141, verset 3. Cette image évoque les gardes aux portes de la ville, lesquels protégeaient la ville au temps biblique. Il s'agit également de savoir si l'enfant de Dieu va écouter les conseils des justes ou bien être attiré par les délices des méchants. Psaume 141, les versets 4 et 5, version Darby. Le psalmiste décrit son cœur comme une menace, car c'est là que la véritable bataille fait rage. Seule une prière constante, pleine de confiance et de dévotion totale à Dieu, peut sauver l'enfant de Dieu de la tentation. Psaume 141, verset 2. À l'écoute du psaume 1, verset 1 et du psaume 141, verset 4, comment le caractère progressif et fourbe de la tentation est-il décrit ici ? Psaume 41, verset 4 décrit la nature progressive de la tentation. D'abord, le cœur est incliné au mal. Deuxièmement, il pratique des actions mauvaises. En hébreu, le caractère répétitif de l'action est mis en avant. Troisièmement, Le cœur mange les délices des méchants, c'est-à-dire qu'il accepte leurs pratiques malfaisantes comme quelque chose de désirable. De la même manière, dans Psaume 1, verset 1, la tentation vient empêcher l'enfant de Dieu de marcher dans les voies du Seigneur en le faisant marcher avec les méchants, s'arrêter sur le chemin des pécheurs et enfin s'asseoir parmi les insolents. Des pécheurs, des méchants et des insolents, ne soyons pas comme eux et ne les laissons pas nous éloigner du Seigneur. Les psaumes décrivent le caractère progressif, séduisant et fourbe de la tentation. Seule une dépendance totale envers le Seigneur peut assurer la victoire. Les psaumes soulignent l'importance des paroles que l'on prononce et que l'on écoute quand la tentation nous assaille. La fin des méchants et celle des justes devraient nous enseigner à rechercher la sagesse auprès de Dieu. Psaume 1, versets 4 à 6, Psaume 141, des versets 8 à 10. Pourtant, dans les deux psaumes, la réhabilitation finale des enfants de Dieu est encore à venir. Cela veut dire que les croyants sont appelés à compter sur Dieu et à faire preuve de patience en s'attendant à lui. Je dis les bénédictions d'une vie intègre. Si quelqu'un peut vous faire la lecture du psaume 1 des versets 1 à 3, psaume 112 des versets 1 à 9 et psaume 128, quelles bénédictions sont promises à ceux qui révèrent le Seigneur ? Des bénédictions promises à ceux qui révèrent le Seigneur, la paix est peut-être la plus grande. Le psaume 1 compare le juste à un arbre planté près de sources d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuilles ne flétrissent pas. Psaume 1, verset 3. Jérémie 17, versets 7 et 8. Ézéchiel 47, verset 12. Cette comparaison identifie la source de toutes les bénédictions, à savoir le fait de demeurer en la présence de Dieu dans son sanctuaire et de profiter d'une relation d'amour interrompue avec Dieu. Contrairement au méchant qui n'a aucune stabilité, aucune place et aucun avenir, le juste est comme un arbre productif avec des racines, une place près de Dieu et la vie éternelle. Psaume 128, versets 2 et 3 évoque les bénédictions du royaume messianique où le fait d'être assis sous sa vigne et son figuier est un symbole de paix et de prospérité. Michée 4, verset 4. La bénédiction de paix sur Jérusalem. Psaume 122, des versets 6 à 8. Psaume 128, versets 5 et 6. Traduit l'espérance en ce Messie qui mettra un terme au mal et restaurera la paix dans le monde.
Dans la Bible, l'héritage des saints est appelé une patrie. C'est là que le céleste berger conduit son troupeau vers la source de l'eau de la vie. On y voit un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. On y voit des fleuves intarissables, limpides comme du cristal, bordés d'arbres qui ondulent dans le vent, projetant leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés du Seigneur. Les vastes plaines s'étendent au loin pour rejoindre de magnifiques collines, et les montagnes de Dieu dressent leurs sommets altiers. C'est dans ces plaines paisibles, auprès de ces fleuves vivants, que les enfants de Dieu, si longtemps étrangers et résidents temporaires sur la terre, trouveront leur demeure.
Ellen White, Le Grand Espoir, page 498, et aussi La Tragédie des siècles, page 733. Le Nouveau Testament décrit la réalisation de cette espérance lors du retour de Jésus et de la création du Nouveau Monde. Matthieu 26, verset 29, Apocalypse 21. Par conséquent, tandis que les justes reçoivent de nombreuses bénédictions en cette vie ici-bas, c'est la plénitude de la faveur de Dieu qui les attend quand le royaume de Dieu sera pleinement restauré à la fin des temps. Pourquoi la croix est-elle la garantie des promesses vétérotestamentaires que Dieu a en réserve pour nous? Comment ces promesses peuvent-elles nous réconforter dès maintenant? Vendredi, pour aller plus loin. Aujourd'hui, parvenir à la sagesse ne semble pas aussi attrayant que de trouver le bonheur. Les gens préfèrent être heureux plutôt que sages. Pourtant, peut-on être vraiment heureux et vivre une vie épanouie sans la sagesse divine? Les psaumes disent clairement que c'est impossible. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à choisir entre les deux, car la sagesse, selon Dieu, procure un bonheur authentique. Un seul exemple de l'hébreu peut illustrer cette idée. En hébreu, le mot « pas » ou pluriel « achour » ressemble beaucoup au mot « bonheur » au « osher ». Cette similitude n'apparaît bien sûr pas en français, mais elle traduit pourtant un message important. Les « pas » entre guillemets qui marchent vers la voie de Dieu conduisent à une vie heureuse. Psaume 1, verset 1, psaume 17, verset 5, psaume 37, verset 31, psaume 44, verset 19, psaume 89, verset 16 et psaume 119, verset 1. Dans la Bible, la sagesse et le bonheur ne sont pas des concepts abstraits, mais des expériences réelles. C'est dans la relation avec Dieu qu'on les trouve. Il suffit de le révérer, de le louer, de trouver de la force en lui et de lui faire confiance. Psaume 25, verset 14, dit que les secrets du Seigneur sont pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance.
Remercions Dieu des tableaux riants qu'il étale sous nos yeux. Recueillons, afin de pouvoir les contempler toujours, les précieuses assurances de son amour. Le Fils de Dieu, quittant le trône de son Père et voilant sa divinité sous notre humanité afin d'arracher l'homme à la puissance de Satan, son triomphe en notre faveur, triomphe qui nous ouvre le ciel et nous révèle le lieu où la divinité manifeste sa gloire. L'humanité déchue, retirée de l'abîme dans lequel le péché l'avait plongée, est réintégrée dans la communion du Dieu infini. Le croyant sortant, par la foi au Rédempteur, victorieux de l'épreuve, revêtu de la justice de Jésus-Christ et élevé jusqu'à son trône. Voilà les tableaux sur lesquels le Seigneur veut que nous arrêtions nos regards.
Ellen White, Le meilleur chemin, pages 103 et 104. À méditer. Comment la parole de Dieu peut-elle devenir source de délices et pas simplement d'enseignement? En quoi le fait de se nourrir de la parole de Dieu est-il lié au fait de demeurer en Jésus-Christ, la parole? Jean 1, verset 1, Jean 15, les versets 5 et 7. Qu'arrive-t-il quand les gens rejettent consciemment et constamment l'enseignement de Dieu? Psaume 81, psaume 95. Pourquoi, selon vous? Pourquoi la voix des méchants semble-t-elle parfois plus attrayante que le conseil des justes? Psaume 141. Autrement dit, comment gérer l'idée que les méchants semblent souvent s'en sortir très bien?
D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site, radioadventistebethanie.com, et aussi sur toutes les plateformes de podcasts.